nos lieux enchantés, une histoire mariant causerie, chansons et patrimoine.
Réalisé par la Compagnie des Histoires en Musique, en partenariat avec la communauté de communes du Pays Mornantais.
Les habitants de Saint-Sorlin étaient plutôt avares et pingres.
L'école et la bibliothèque ne vivraient probablement pas si l'école n'était plus là. Surtout dans notre village où on n'a pas de commerce.
Vous savez, les pies, on peut les apprivoiser. Même on peut leur apprendre à parler un petit peu. Hein, si vous lui dites 50 fois « bien gentil Margot, bien gentil Margot », la 51e fois, c'est elle qui va vous dire « bien gentil Margot ».
La Cressinière a failli ne pas bouger et s'écrouler sur ses fondations.
Nous amener à la grotte, et le chapelet, ça dure une demi-heure. À genoux, sur des escaliers qui étaient très durs, je crois que j'en ai encore mal aux genoux.
Et elle m'a dit « merci, merci, c'était formidable ce livre, je l'ai lu deux fois ».
Non, il n'y a pas eu des miracles, à moins que ce soit dans le cœur des hommes, mais non, il n'y a pas eu de miracle, pas du tout, enfin on pense pas, non.
À deux pas de Lyon, le pays mornantais, un plateau, des coteaux, un pays dans le pays.
Je suis Romain Lateltin, enfant du pays.
Et moi, je suis Théophile Hardy, enfant fraîchement adopté. Nous avons une mission. Explorer le pays mornantais, sa culture, son patrimoine, ses visages, ses paysages, pour trouver ce qui relie ces 30 000 âmes.
Nous allons causer avec les gardiens des histoires et légendes, ayant traversé le territoire et les années. Nous allons sillonner le pays pour capter sa vibration et tenter d'écrire des chansons qui racontent son histoire en musique.
Notre cap, le festival itinérant Nos lieux enchantés, qui invitera des artistes à chanter leurs propres chansons et celles du lieu, décor de leur spectacle. Pour vivre notre pays mornantais avec nos cinq sens.
Pour explorer ses couplets, traverser ses ponts et entonner ses refrains en chœur.
Pour en chanter nos lieux.
Bonjour, nous bouclons aujourd'hui notre découverte de la commune de Chabanières par le village de Saint-Sorlin. Perché sur sa colline, à l'ombre d'un imposant bâtiment, visible à des lieues à la ronde, ce village nous intrigue et c'est avec impatience que nous rejoignons Martine et Maurice sur le perron de la jolie petite mairie pour percer ses secrets. Martine, Maurice, bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Merci. Donc, je suis Martine Perron. Mon mari, Franck Rossi, a fait énormément de choses sur le village et il est malheureusement décédé. J'ai repris pas mal d'activités qu'il avait mis en place. Et donc, on est sur le théâtre à Saint-Sorlin, sur la culture, les arts au soleil, beaucoup d'ateliers théâtre. On a quatre groupes de théâtre à Saint-Sorlin. Et donc, je suis à Saint-Sorlin depuis les années 80. Et mes enfants ont pratiqué l'école dès leur plus jeune âge, jusqu'au CM2. Voilà, dans le plus grand bonheur, si j'ose dire.
Alors, est-ce que tu peux nous parler quand même de ton mari, de Franck, parce que il a...
Eh bien, Franck a, et c'est beaucoup. D'abord, il a été élu un certain nombre de fois, 4 ou 5 mandats, je ne sais plus. Il est décédé lors de la fin du dernier mandat, qui était avec aide-moi. Pierre Verga, voilà, merci. Il avait énormément d'envie de faire du théâtre et des arts dans le village. C'est de là qu'ils sont nés les arts au soleil essentiellement et aussi toute la partie théâtre, puisque aujourd'hui nous avons l'atelier enfant avec un prof, la troupe ado avec un bénévole. 9 ados qui préparent une pièce où ils vont essayer de tourner comme une troupe. On a l'atelier adulte avec un prof et la troupe adulte qui vient de jouer Toc Toc ce week-end dernier.
Ok, donc Saint-Sorlin, en tout cas, un village de théâtre et de culture.
Voilà, il y a d'autres choses, bien sûr.
Oui,
il y a
on
la
en
fête du
tout
village,
à l'heure,
etc. Mais en dehors, enfin, sans compter tout ce qu'il y a comme histoire, dont Maurice sera mieux placé pour en parler.
Et alors, tu es une jeune retraitée.
Oui.
Qu'as-tu fait dans ta période d'activité?
Oula, j'étais responsable, j'étais en surveillance pendant des années, des grosses chaufferies collectives, surtout des organismes HLM, donc je suis plutôt sur la technique.
D'accord.
Et pas du tout sur l'art.
Une technicienne, mais qui a bifurqué sur l'art.
Voilà, si on veut, parce que j'organise, mais je ne suis pas artiste du tout.
D'accord, mais il faut des organisateurs, parce que des fois, les artistes ne sont pas de grands organisateurs.
C'est ce qu'on me dit, mais voilà.
Merci Martine. Donc Maurice, à ton tour, raconte-nous un peu qui tu es.
Alors, je m'appelle Maurice Moreton, je suis de Saint-Sorlin, même si je ne suis pas né à Saint-Sorlin. Je m'intéresse, depuis que je suis à la retraite, je m'intéresse à l'histoire de Saint-Sorlin, qui est assez. On retrouve des traces de Saint-Sorlin jusqu'dans les années 900, ce qui est déjà pas mal. Je m'intéresse aussi à la généalogie, qui a nécessité des cours de paléographie pour pouvoir lire des textes anciens. Puis je m'intéresse aussi à l'histoire des noms. Pourquoi on a un nom de famille, pourquoi, comment ils sont arrivés, c'est pas par hasard, ça date aussi des années 1000. Voilà. Dans ma vie professionnelle, eh bien, j'ai eu deux parties. Une première partie où je vendais de l'informatique, mais de l'informatique industrielle. Le pilotage des raffineries, le pilotage des centrales nucléaires, le pilotage dans les aciéries, etc. Et puis après, je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre, ben, j'ai acheté de l'informatique dans le monde des caisses de retraite. Voilà, ça m'a permis de bien identifier chez mes interlocuteurs en face de moi qui voulaient me vendre l'ordinateur, quels étaient leurs points sensibles, les fins de trimestre où ils avaient des points de passage, etc. etc. Donc, on me dit que je négociais bien. Voilà.
Un grand négociateur. Maintenant que vous êtes présenté, on va aller sur la partie, on va dire, pratique de Saint-Sorlin, sur des informations essentielles. Alors, je rappelle juste à nos auditeurs que Saint-Sorlin, aujourd'hui, fait partie de la commune de Chabanières avec Saint-Didier-sous-Rivry, et Saint-Maurice-sur-Dard, quoi. Voilà. Donc, alors voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Saint-Sorlin, c'est-à-dire combien y a-t-il d'habitants, comment on vous nomme, comment on vous appelle, y a-t-il un petit sobriquet? Voilà, dites-nous en un peu plus.
Ben, pour les habitants, je crois qu'on est à peu près 640. Tu peux me corriger si c'est
je
pas
pense
ça.
Qu'avec, oui, on doit être, on a un peu grossi avec l'arrivée de la Christinière qui a été aménagée.
Alors,
un en logement, donc avant on était à 600 et on a dû quand même augmenter puisqu'on a une trentaine de logements qui sont ouverts récemment.
Mm-hmm.
Donc on doit peut-être plutôt être à 700 finalement. On les a pas comptés les derniers encore.
Et comment on appelle les habitants de Saint-Sorlin alors?
Ben, les Saint-Sorlinois. Ça va bien, mais leur surnom, le sobriquet, parce que c'est ce que vous attendez, j'imagine, ce sont plutôt les racanières.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'origine des racanières? Ça veut dire quoi?
Alors, l'origine la plus probable, c'est de dire que les habitants de Saint-Sorlin étaient plutôt avares et pingres. Mais il y a une autre version que j'essaye de trouver parce que quelquefois on me dit non, c'est pas ça. Et alors je cherche, mais je crois que c'est ça, oui, effectivement.
Alors c'est rigolo parce que.
Ça reste encore dans l'habitude des gens ici.
Ah,
oui.
Ils sont un peu pingres alors, les Saint-Sorlinois.
Il semblerait.
En tout cas,
c'est rigolo parce qu'à chaque fois, les sobriquets, il y a toujours des histoires assez improbables. Je pense notamment l'autre fois à Taluyer où ils les appellent les aliénés, par exemple. Et donc il y a des fois des sobriquets qui sont pas très bien. On va dire ouais. Assumé, quoi. Ouais. Donc là, racanière, a priori, Maurice s'est assumé. Les Saint-Sorlinois.
Bah oui. On est tous un petit peu. Oui, c'est dans.
On a des oursins dans la poche, quoi.
Oui.
c'est assez rigolo. Alors, je rappelle que Saint-Didier-sur-Ivry, ce sont les Badrets et à Saint-Maurice-sur-Dargoire, les chats. Voilà.
Et je rappelle aussi que Chabanière, c'est l'association des sobriquets de, oui. des chats, des Badrets et des racanières. Voilà.
Avec Nière, enfin.
Et comment on appelle les habitants de Chabanière ?
Alors, ça, c'est une bonne question.
On ne les appelle pas.
C'est vrai ?
Il vaut mieux pas, parce qu'on pourrait les appeler les Chabanais et les Chabanaises. Il faut savoir que le Chabanais, c'était une maison close à Paris dans les années 1900. Donc, qui était occupé par des Chabanaises. Alors, on va. Non, on mais va vous couperez là.
Vous allez éviter de trouver un nom à la commune de Chabanière. Bon, bah, c'est comme ça, on dira les habitants de Chabanière. Ouais. Et pour revenir à Saint-Sorlin, parce qu'on est ici à Saint-Sorlin, avec cette magnifique vue là, c'est vraiment magnifique d'ailleurs. D'où vient ce nom Saint-Sorlin ?
Vous savez, on a été occupé du temps de la Gaule par les Romains, et à cette époque-là, eh bien, nos ancêtres, les Gaulois, vénéraient certains dieux. Il est probable qu'à Saint-Sorlin, on vénérait Saturne. Comme à Saint-Maurice, il est probable qu'on vénérait Mars. Donc, quand l'Église est arrivée, elle y est allée un petit peu en douceur. Elle dit, c'est pas possible que dans ce lieu, on adore Saturne. Et ils y sont allés vraiment en douceur en disant « Mais vous vous trompez, c'est pas Saturne, c'est Saturnin ah, !» Et puis peut-être que quelques décennies après, on a rajouté le Saint devant, c'est devenu Saint Saturnin. Et on est passé de Saint Saturnin à Saint Sorlin parce que le nom Saint Saturnin a été corrompu. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nom corrompu ? C'est un nom qui change un petit peu d'orthographe, j'allais dire, à cause du patois, à cause du passage du latin vers la langue française, à cause de plein de choses, quoi. Voilà.
Est-ce que vous connaissez, j'imagine que oui, votre blason, et est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il est constitué ?
Parce que ben, oui.
Alors dites-nous un petit peu, parce que nous on trouve que c'est intéressant, les symboles qui ont été choisis, entre guillemets, parmi tous ceux qu'on aurait pu choisir pour vraiment identifier le village.
Alors, je peux vous le dire, je ne peux pas vous le traduire en langage héraldique, parce qu'il faut que je le lise, je ne sais pas par cœur, mais quand on regarde ce blason, on a l'étoile. L'étoile rappelle que nous étions un fief de la baronnie de Rivry. Il existe encore à Saint-Sorlin des maisons avec des dessus de portes où on retrouve cette étoile. Après, vous avez en dessous deux arbres, deux pommiers, je pense. C'est pour rappeler qu'à l'origine, Saint-Sorlin est un village agricole et beaucoup d'agriculteurs allaient vendre le produit de leur récolte au Quai Saint-Antoine à Lyon. Donc ça rappelle ses origines. Au milieu, vous avez une navette. La navette, c'est un des petits outils qui est utilisé dans le tissage. Dans les années 1800, 1900, chaque famille pratiquement avait un métier à tisser. Les agriculteurs travaillaient l'été, puis l'hiver, ils avaient un peu moins de choses à faire, et ils passaient au tissage. Il a même été construit à Saint-Sorlin. Je la date, mais je l'ai plus en tête. Il a été construit l'établissement industriel de Saint-Sorlin, qui était dirigé par les sœurs Saint-Charles de Mornan. Et on retrouvait dans cet établissement industriel beaucoup de métiers à tisser. Et des jeunes filles de la région venaient travailler dans cet établissement industriel. Et cet établissement industriel, c'est l'aile droite de l'ancien orphelinat actuellement.
On va en parler juste après. Donc c'était parce que on a vu beaucoup de tissage de velours partout. On est passé dans le pays mornantais.
Beaucoup de velours aussi.
Beaucoup de velours. Mais là, par contre, c'était différent. C'était vraiment de l'industrie. C'était vraiment organisé.
Alors pour ce qu'ils appellent l'atelier industriel de Saint-Sorlin, oui, c'était pour regrouper toutes ces jeunes filles qui n'avaient pas la possibilité de travailler chez elles. Mais dans chaque maison, d'ailleurs, si vous regardez, il y a certaines maisons à Saint-Sorlin qui ont des fenêtres assez hautes, c'est qu'elles avaient un métier à tisser. Et on tissait pas spécialement la soie, un peu de la soie, mais on tissait le velours dit au sabre. Alors au sabre, je crois qu'à la fin, lorsqu'il était tissé, on passait une lame pour couper les boucles, tout ce qui dépassait un petit peu. Je crois que c'est ça, oui.
Il nous reste quelque chose sur le blason.
Alors il nous reste le puits. C'est le puits de la Christinière. Donc c'est un puits qui est situé près de l'ancienne orphelinat. Et ce puits faisait partie du fief des Charézieux. Charézieux, c'était des nobles qui étaient très liés à la baronnie de Rivry. Et leur maison était là-bas. Donc c'est dans cette maison en particulier qu'on trouve des linteaux avec des étoiles qui rappellent leur attachement à la baronnie de Rivry.
On a déjà pas mal parlé de la Christinière. Alors c'est vrai que moi, je suis arrivé dans le pays mornantais il y a quelques temps. J'ai emménagé ici, je me sens comme adopté, j'ai été très bien adopté. Et dès que je suis arrivé à Mornant, la première chose que j'ai vue en levant la tête, c'est cet imposant bâtiment qui est assez intrigant. C'est la première chose qu'on voit, c'est la première chose, et en même temps un peu impénétrable. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter son histoire, mais aussi son présent ?
Alors, pour son histoire, l'histoire elle a commencé non pas à Saint-Sorlin, mais du côté de Saint-Loup. Saint-Loup, c'est près du Beaujolais, par là-bas, où la famille Perret avait deux filles, et ils s'étaient donné comme objectif de recueillir des orphelines, généralement qui venaient de Lyon. Mais c'était trop petit pour eux, et la famille Perret a cherché quelque chose de plus grand pour accueillir plus d'orphelines. Et elles ont appris, alors l'histoire est un petit peu plus longue, mais elles ont appris qu'il y avait à Saint-Sorlin, justement, cet établissement industriel qui était à vendre, et qui appartenait à trois sœurs qui s'appelaient les sœurs Charton. Quand je dis sœurs, ce n'étaient pas des religieuses. Donc elles ont acheté cette partie-là, puis après il y a eu la construction de la partie centrale et des ailes supplémentaires. Je crois que la dernière construction de bâtiment a eu lieu en 1936. Et là, elles ont pu accueillir beaucoup, beaucoup d'orphelines. Et beaucoup de religieux. C'était devenu la maison mère des petites sœurs franciscaines de Jésus. Non, la maison mère des petites sœurs de Jésus franciscaines.
Voilà. Dans le bon ordre.
Dans le bon ordre. C'est une communauté qui était rattachée à Saint-François d'Assise.
D'accord, donc c'est vraiment l'opportunité de ce bâtiment industriel qui a fait que on a trouvé suffisamment d'espace et que ensuite il y a eu une extension pour accueillir un peu toujours plus d'orphelins et orphelines, ou c'était que
non,
des filles ?
Non, uniquement des orphelines.
D'accord.
Il y avait la même maison qui a été construite un petit peu plus tard, je crois, à Talhuyer, où là ils recevaient les garçons.
Tout à fait. On en a parlé dans le podcast, exactement, avec Talhuyer. D'accord. Et alors maintenant, à partir de quand ça... Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? À partir de quand ça n'est plus devenu un orphelinat ? Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps ? Parce que je pense qu'il y a eu un petit moment de battement, je crois, et aujourd'hui, il y a un présent. Dites-nous un petit peu comment ça...
Alors, je vais vous expliquer plutôt la transition.
Oui.
Comme on peut l'imaginer, les religieuses, il y en a eu de moins en moins... Peut-être des orphelines aussi de moins en moins, et la congrégation a été dissoute. Peut-être pas dissoute, mais enfin, ils ont quitté Saint-Sorlin à un moment donné. Et le bâtiment est resté, je crois, pendant 13 ans inoccupé, jusqu'à ce qu'il devienne, qu'il soit repris pour être, pour le transformer en une, pas un EHPAD, mais... En un bâtiment de lieu, comme on appelle ça, les longs séjours. Ça a duré quelques dizaines d'années. Et puis, à cause des contraintes techniques, de sécurité, etc., ça a été abandonné. Et là, la Christinière, le bâtiment dit la Christinière, enfin, pas le bâtiment dit la Christinière, mais l'association, enfin bon, est partie à Talhuyer aussi. Donc, vous voyez, finalement, on a beaucoup de rapports avec Talhuyer. Et là, c'est donc maintenant sur Talhuyay que se trouve cet établissement dit de long séjour. C'est une maison de retraite maintenant aussi.
Pour les religieuses, hein, je crois. Il y a encore...
Non, et qui s'appelle la Christinière.
Ça s'appelle aussi la Christinière. Ils nous ont piqué le nom.
Ah oui, c'est vrai.
Je leur en veux un peu aussi.
C'est vrai.
Oui, mais c'est une EHPAD, en fait.
Ouais. Parce qu'on a encore, il y a encore quelques religieuses dans le...
Alors, il y a des religieuses... À Talhuyay, tout à fait, oui. De l'ancienne congrégation.
Ouais. Mmh,
tout à fait. Dans leur ancien bâtiment, là, un petit peu à l'écart, pas très loin du restaurant...
Après, c'était donc une maison de retraite, long séjour, comme vous dites, la Christinière. Donc, on revient à Saint-Sorlin. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, alors ?
Il y a eu un long abandon, on va dire, de l'immeuble. C'est un immeuble qui est tellement important et volumineux qu'il était compliqué de savoir, on parlait de démolition ou pas. Enfin, ça a été un enjeu qui a duré quelques mandats, d'ailleurs.
De quand à quand ? À peu près,
Maurice.
À peu près.
Je sais plus. C'était, il y a eu au moins 3 mandats à mon avis entre le départ et.
Presque 20 ans.
Oui, pas loin. Hein. Ça s'est beaucoup dégradé, donc du coup le bâtiment et en fait on s'est resté longtemps en gros souci pour Saint-Sorlin et un poids parce que voilà un bâtiment aussi important vide, c'est pas simple. Il y a eu des inondations, des introductions de personnes. Enfin bon, on a, comme tout bâtiment, abandonné. Et finalement, c'est donc une entreprise un peu spécialisée quand même dans la reprise de bâtiments anciens, me semble-t-il, qui a pris le risque, ou pas, je ne sais pas s'il y avait risque, enfin qui s'est engagée dans la démarche de reprendre cette bâtisse et de la conserver, tout en la restaurant pour en créer des appartements. C'est donc depuis deux ans hein, que c'est à peu près terminé et ça fait un an que les nouveaux habitants sont arrivés. C'est un peu plus d'un an, peut-être pour les premiers.
C'est vrai que c'est une étape importante pour Saint-Sorlin, parce qu'en effet, tu disais tout à l'heure que 30 appartements, ça fait vite 100 personnes
ben oui.
pour un village 600. De 600.
Et ben
ça
oui.
fait 15%.
Ben oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on a compté.
C'est une grosse étape pour Saint-Sorlin.
Absolument. Des problèmes de stationnement, question pour l'école. Bien que pour l'instant, les personnes qui ont acheté ne sont pas forcément des jeunes ménages. Je veux dire pourquoi ? Question prix.
C'est cher ?
Bah oui, c'est des appartements chers, donc c'est quand même plutôt des gens qui ont déjà de la famille, enfin des grands-enfants souvent. Il y a pas mal de gens qui sont quand même sans enfants parce que les enfants sont partis, ils sont déjà plus là. Alors on a quelques familles quand même, mais on avait peur d'avoir une marée d'enfants et en fait pas vraiment. Ceci dit, on est très vigilant sur l'école, c'est la vie du village. Et donc, voilà, je ne pense pas dévoiler les secrets en disant qu'on prévoit de refaire un restaurant scolaire qui est actuellement un peu petit et qui serait justement à l'espace Franck-Rossi, où il y a tout la partie sport. Franck-Rossi, donc.
Ah, pardon, oui.
Qui est... pardon, j'ai un chat. Je ne suis pas de Saint-Maurice. Où ils auraient tout l'espace pour jouer, etc. Donc, ça c'est le lieu qui a été choisi et pour voir ce nouveau restaurant.
Et du coup, il y a eu des ouvertures de classe, peut-être ?
Non, alors...
Ou des maintiens ?
Moi, si on peut parler de l'école, enfin, ça, Maurice aussi a eu ses enfants. Moi, je suis arrivée en 82, 83 à peu près, avec une petite... La maternelle n'existait pas encore. Elle a fait une première année à Mornan. Puis, l'école de Saint-Sorlin, il y avait même pas peut-être 10 élèves, donc on était en risque de fermeture rapide. Donc à ce moment-là, il s'est mis en place avec Michel Goy, on a été mis en place l'idée de faire une maternelle pour que les enfants qui naissaient soient déjà sur le village et restent sur le village pour le primaire. Ça a marché. Donc ma fille a inauguré, elle est de 1980, elle a inauguré la maternelle. Ensuite, donc, on a été avec deux classes, une classe pour les primaires et une classe pour la maternelle. 10 ans plus tard, j'ai eu un fils. Lui a inauguré la troisième classe parce qu'il y a eu un énorme groupe qui est arrivé. Et de deux classes en primaire, on est passé d'une classe en primaire à deux classes, puis à trois.
En 90, là, on était.
Dans les années 92. Oui, parce qu'il n'est pas rentré en 90, il était né en 90. Donc en 96, 97, il y a une troisième classe qui a été créée en primaire. Donc il y avait quatre classes. Et puis... La vie a fait que ça s'est redescendu. Et aujourd'hui, il y a deux classes primaires et une classe maternelle.
D'accord.
Et toutes les œuvres des écoles, tous les enfants des trois classes vont être exposés aux Arts et Soleil. J'en profite.
Ah, aux Arts et Soleil.
Okay. Aux Arts au Soleil.
Au Soleil. Et on va en reparler juste après. Merci un peu pour cet historique un peu de l'école à Saint-Sarlin qui est intéressant parce qu'on voit en effet que l'école suit... Évidemment, la population, c'est aussi un lieu de rencontre. On voit que quand on arrive, on en a parlé, tu te rappelles, à Orliena, que quand des familles arrivent sans enfants, c'est plus difficile de s'intégrer au village. Alors, l'école est un endroit d'intégration, en fait. On le dit pas souvent, et je trouve que c'est très important.
Si, c'est vraiment le lieu de vie. Franchement,
et de rencontres.
Surtout dans notre village où on n'a pas de commerce. Donc l'école et la bibliothèque ne vivraient probablement pas si l'école n'était plus là. Parce que les enfants vont à l'école et à la bibliothèque, on reçoit les enfants de l'école et les parents accompagnent leurs enfants à la bibliothèque. Et de fil en aiguille, notre bibliothèque vit bien grâce à l'école. Et l'école, c'est la base. S'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de village. Il n'y a plus de vie de village. Enfin, ça devient très compliqué.
Voilà, donc c'est vraiment un centre de gravité qui est très important, d'où l'importance de se battre aussi pour maintenir
Absolument.
Les écoles dans les villages. Et il n'y a pas que les commerces. Donc tu t'occupes de la bibliothèque aussi. Quel rôle as-tu dans cette bibliothèque ?
On n'est que des bénévoles à Saint-Sorlin, on est 7 ou 8 bénévoles. Comme j'aime beaucoup la bibliothèque, j'y passe beaucoup de temps sur toute la partie recherche de livres. On est en lien dans le réseau, donc c'est des bibliothèques sur la Copamo. Ça a été un formidable élan, il faut le dire. Surtout pour nous qui étions petite bibliothèque, je crois qu'on a vraiment profité du réseau. On profite du réseau qui nous apporte énormément d'abord de possibilités de catalogue de livres, de choix de livres. D'animation et de rencontres avec toutes les autres bibliothèques. On connaît toutes les bibliothèques du réseau.
Depuis quand il existe ce réseau ?
Quand est-ce que ça fait ? Je ne voudrais pas dire bêtises, ça fait peut-être bien 5 ans. 5-6 ans. Enfin, parce que le temps passe et je ne me rends pas toujours compte.
Oui, mais c'est
on
pas...
On a eu le même logiciel partout.
Oui, oui.
Avant, on avait des logiciels, des fois, plus ou moins branlants. Donc le fait d'avoir le même logiciel aussi pour l'ensemble du réseau, ça a été aussi un apport pour nous qui pédalions un peu dans la choucroute avec nos problèmes d'informatique. Et en plus, avec les liens avec la médiathèque, on a des réunions de réseau régulières dans lesquelles la médiathèque du Rhône, qui alimente les bibliothèques, tout ce que peuvent produire une médiathèque, et en animation... est présente dans les réunions réseau et du coup
on fait des propositions.
On a des voilà.
C'est un très chouette exemple de mutualisation au niveau de l'intercommunalité qui marche sur la Copamo et c'est un bel exemple.
Je pense que on a deux personnes actuellement qui s'occupent du réseau.
Il y en avait une là qui
nous et Elodie, Florence qui nous livrait tout à l'heure.
Oui.
Là.
On est arrivé, tu avais une livraison
de livres qui va être dans chaque bibliothèque et qui a été fabriqué par le personnel de la Copamo.
Et tu nous disais qu'il va servir à mettre en avant des livres qui ont été choisis par les lecteurs.
La sélection, je n'ai pas encore toutes les tenants aboutissants. Ce qu'on sait, c'est que nous, on saura s'en servir déjà, puisqu'on y a déjà mis les livres de notre enquête à Chabanière, qui sont le choix de 5 romans policiers. qu'on fait avec les trois bibliothèques de Chabanières, mais ouverte à l'ensemble du réseau. Mais c'est une animation initiée par les trois bibliothèques de Chabanières.
Choix des lecteurs, donc une approche participative où tout le monde œuvre pour noter.
On a fait la sélection sur des premiers romans, c'est du policier, premier roman, qui vient de sortir, c'est-à-dire qu'on ne les a pas lus, nous-mêmes. On se fie un peu au résumé, enfin, on peut se tromper, mais cette année, la sélection est au top.
Super.
J'ai tout lu en moins d'un mois.
Ça donc, fonctionne, le méthode.
Oui, c'est, je conseille à tous jusqu'en octobre, donc c'est ouvert jusqu'en octobre.
Et il y a combien d'adhérents, combien de lecteurs Saint-Sorlinois qui viennent?
Alors, on a plus de 10%, de mémoire, je n'ai pas les statistiques en tête, mais on a plus de 10% de la population qui est adhérent. On sort un gros pourcentage de livres. Il y a énormément de... Avec le réseau, j'ai des lecteurs qui sont spécialistes de recherche dans le réseau. Et on a des fois 20 livres qui leur sont réservés, qui les attendent. Ils viennent régulièrement les chercher dans notre bibliothèque, puisqu'ils sont 2500 là. Et ces livres ont été récupérés dans chaque bibliothèque du réseau.
C'est génial.
Et ça, c'est génial parce qu'on ne peut pas alimenter petite bibliothèque, on n'a pas le catalogue pour satisfaire ce besoin de lecture.
Il y a plein d'affiches, on est passé dans la médiathèque, la bibliothèque tout à l'heure, il y a plein d'affiches très rigolotes, un peu provocatrices, qui donnent envie de lire et qui transforment le besoin de lire en presque l'obligation de lire en interdit de lire,
j'ai bien aimé l'affiche.
C'est très bon ça.
C'est Didier qui nous a passé ça et j'ai vite affiché, je l'ai trouvé drôle.
C'est très malin, on n'a pas le mot exactement, mais on invite justement nos auditeurs à venir dans la bibliothèque pour découvrir les livres, mais aussi ces petites affiches qui sont super bien foutues et qui détournent parfois le côté qu'on peut avoir un peu austère, surtout peut-être pour les jeunes, et encore de moins en moins de la lecture, de moins en moins.
Oui, parce que en fait, nos lecteurs, du fait qu'on n'a pas de collège ni de lycée à Saint-Sorlin, ce sont des enfants du primaire en général. Les parents arrivent en général avec un sac à chaque main. S'ils ont deux enfants, ils ont deux sacs pleins, et chaque semaine, les enfants ont déjà commencé à lire en descendant et dans la voiture. Et quand ils arrivent, il y a déjà des livres qu'ils ont lus. Quand ils arrivent chez eux, tellement on a des gros lecteurs chez les enfants.
Ouais, c'est vrai. C'est de plus en... On a l'impression parfois que les parents ont plus de curiosité ou d'exigence pour leurs enfants que parfois que pour eux-mêmes. Nous, on remarque ça beaucoup dans le spectacle vivant.
Les enfants, j'ai des familles où la télé est extrêmement gérée de près. Et du coup, les enfants lisent.
C'est beau. Ça fait plaisir d'entendre ça.
C'est des volontés des parents. Les parents n'ont pas toujours le temps de lire, mais leurs enfants prennent le temps. Parce qu'ils n'ont pas là forcément devant les... Ils sont limités sur la télévision, sur l'écran.
On boucle cette parenthèse juste sur... vous avez une autrice qui a écrit Isabelle, et qui a écrit sur... a priori sur la Christinière, on est d'accord. Entre autres, sur Saint-Sorlin plus largement.
Oui.
Même si je crois qu'il y a un nom de code un petit peu pour ne pas dire que c'est Saint-Sorlin.
Oui, les noms ont été modifiés, mais nous qui... D'abord, je connais bien Isabelle, elle est de 82.
Isabelle Rodriguez.
Rodriguez. Elle a fait sa scolarité à Saint-Sorlin. Je la connais bien pour ça. Et en fait, c'est un peu sa vision d'enfance de Saint-Sorlin. Et comme c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, pour elle, cette vision d'enfance, elle voudrait que ça reste, ça ne bouge pas. Ce qui est un peu compliqué, évidemment, puisque la Christinière a failli ne pas bouger et s'écrouler sur ses fondations. Et donc, c'est vrai que c'est très bien écrit, c'est très émouvant, parce qu'on voit cet enfant qui s'est imaginé des choses.
Oui, c'est ça.
Complètement.
C'est un vrai roman, sur des choses...
Sur sa vision d'enfant.
Ouais, ses souvenirs.
Ses souvenirs d'enfant, mais ses rêves d'enfant aussi. Ce qu'elle a rêvé, parce qu'il y a quand même du rêve.
Voilà, c'est un roman.
C'est un roman.
Très bien. Il est disponible en prêt à la médiathèque, à la bibliothèque de Saint-Sorlin.
Bien entendu,
dans le réseau.
Dans le réseau, globalement.
J'ai demandé s'il y était ce matin. Il n'y était pas. Donc
ben,
il tourne.
Il n'y est pas parce qu'il tourne.
Il tourne. Donc c'est bon signe, hein, n'est-ce pas, Romain, quand ça tourne, c'est bon signe.
Les gens qui viennent d'habiter justement à la Crécinière sont encore plus intéressés de découvrir cette histoire, en fait, parce que la Crécinière, ça reste le bâtiment qui a vraiment marqué Isabelle, et elle en parle beaucoup, et des gens qui ont vécu, enfin, elle a imaginé, à mon avis, des choses, parce que tout n'est pas si évident que ça, mais il faut le prendre comme son imagination d'enfant.
Et je rappelle le titre, enfin je nomme le titre, c'est Les Orphelines du Mont-Luciol. Très joli titre d'ailleurs.
Sachant qu'on a découvert à cette occasion, mais Maurice, tu le savais peut-être, qu'en fait le mont qui est derrière s'appelle le Mont-Luciol.
Oui, le Mont-Luciol, c'est la petite colline boisée qui domine le village. D'ailleurs, on en parle dans beaucoup de documents. La première fois, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en 1984, il y avait la charte de l'évêque Burkhard qui évoque effectivement la présence d'une église au pied du mont Luciol. Dans un autre document un petit peu plus loin, vers les années 1100, on évoque un certain Lédrade qui, pour le repos de son âme, avait décidé de donner à l'église de Mornan ses vignes qui étaient au pied du mont Luciol à Saint-Sorlin, enfin au pied de Saint-Saturnin, au pied du mont Luciol. Donc c'est vrai. Et après, c'est un nom qui a été un petit peu abandonné et il est redevenu un peu plus courant dans la vie des Saint-Sorlinois quand la famille du Sud, qui a beaucoup marqué le village, mais un peu plus récemment bien sûr, a ressorti ce nom, l'a évoqué assez souvent, quoi.
Merci pour toutes ces précisions. Et puis, on invite évidemment nos auditeurs à aller lire ce livre. Nous, c'est ce qu'on va faire. Voilà, bientôt.
Mais qui sera disponible parce qu'il sort beaucoup.
Ouais, mais tant mieux. Non, mais on ira nous l'acheter. Elle va faire des salons du livre. On aura l'occasion de la croiser. Ouais. Alors, on va changer un peu de sujet. Maintenant, on va remonter un petit peu dans le temps, mais un temps pas si loin que ça. Bon, dans beaucoup de communes, on a constaté ça, il y a toujours un curé marquant. Voilà, parce qu'il y a eu une époque où les curés étaient vraiment faisaient partie du village et s'occupaient de beaucoup de choses. Et nous, dans ce qu'on a lu, en tout cas, dans les archives, à Saint-Sorlin, c'était le père Vauterin. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux père? Qu'est-ce qu'il a tant fait pour Saint-Sorlin? Quel était ce personnage?
Le père Vauterin, j'imagine que vous allez évoquer aussi son passé au moment de la guerre. Il est arrivé en 1953 à Saint-Sorlin et la première chose qu'il a faite, qui a marqué l'histoire du village, c'est effectivement la construction du sanctuaire à Saint-Sorlin. Ça s'est passé un petit peu... Voilà, un jour, il a réuni les jeunes du village, puis il leur a dit, écoutez les jeunes, je vous ai réunis ce soir, ils devaient le faire de temps en temps, hein. Vous savez, les curés, ils n'avaient pas du caté, mais ils réunissaient les jeunes, et puis peut-être les moins jeunes, j'en sais rien, enfin ils les avaient réunis, puis il leur dit, les jeunes, je vous ai réunis ce soir, ils étaient une quinzaine, je vous ai réunis ce soir parce que je voulais savoir si vous étiez d'accord pour donner un coup de main pour finir de démolir la croix Fillon. La croix Fillon, c'était une croix qui était dans le centre du village, qui était en train de se casser la figure. Donc, si vous vouliez donner un coup de main, ça permettrait d'empirer les quelques chemins du village qui en ont bien besoin. Et puis, les jeunes commencent à se dire, mais il est fada, notre curé, qu'est-ce qui lui arrive de monter une croix, écrouler une croix, c'est pas possible. Puis finalement, au bout d'un petit moment, le plus hardi d'entre eux lève la main et dit, écoutez, monsieur le curé, si, il ne faut pas compter sur nous pour démolir une croix, mais si vous voulez qu'on la relève, alors là, on est tous d'accord. Et alors, si on avait pris son smartphone à ce moment-là pour prendre la photo du père Vauterin, derrière ses lunettes, on aurait vu un sourire radieux parce qu'il voulait que ce projet de relever la croix vienne des jeunes et non pas de lui. Et ça, ça s'est passé à la fin de l'hiver, à la fin de l'hiver 54, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'a démarré le projet de construction du sanctuaire, parce qu'il s'est dit, si des jeunes sont capables d'un tel projet, si on associe toute la population, il y avait 170 habitants à Saint-Sorlin à ce moment-là, si on associe toute la population, eh bien, on aura un projet un petit peu plus grandiose.
Alors, bon, tu parles du sanctuaire, donc on est passé tout à l'heure, juste avant, dans ce lieu... pittoresque, atypique, improbable, incongru, enfin bref, tout plein de mots peuvent venir à l'esprit. Pourquoi ce sanctuaire ? Qu'est-ce qui est passé par la tête de ce curé
à ce moment-là ? Ah, les curés, ils avaient peut-être pour mission, effectivement, à cette époque-là encore, de construire des endroits religieux. Et puis, il faut dire aussi que c'était le début de... Il y avait pas mal d'événements un peu difficiles à cette époque-là. Il y avait le canal de Suez où ça se fritait dur. Puis il y avait le début des guerres d'Afrique du Nord, enfin des conflits en Afrique du Nord. Et pas mal de soldats de la région partaient. Les familles voyaient partir leur fils, leur mari. Les enfants voyaient partir leur père. Et donc ça s'est passé un petit peu avant, mais bon, il a été construit pour la paix. Je crois que le curé de Saint-Sorlin, le père Vautrin, il a vécu pendant la guerre. Et il devait être marqué par cet objectif, la paix dans le monde, etc. Et donc, c'est comme ça qu'a eu lieu la construction déjà de la première partie, qui représente la grotte de Massabielle, en dessous, la grotte de Lourdes. Après, il y a eu la construction sur la partie supérieure de l'esplanade, avec une très belle statue d'un sculpteur très connu qui s'appelait Hartmann. Alors c'est une reproduction, mais c'est lui qui l'a fait et qui l'a donné à Saint-Sorlin, enfin au sanctuaire. Dans les années suivantes, il y a eu la construction de la chapelle souterraine. Et alors pendant toute la guerre, dès la construction de la reproduction de la grotte, monsieur le curé nous attendait à la sortie de l'école. On parlait de l'école tout à l'heure. On était 13 à l'école. Il y a un peu plus de monde maintenant. On était 13 à l'école. Il nous attendait à la sortie. Et on allait réciter le chapelet au sanctuaire pour la paix dans le monde. Puis tous les samedis, il y avait également une messe qui était. L'objectif, c'était la paix dans le monde.
Et tu as participé à la construction du coup de ce sanctuaire ?
Eh bien oui, pourtant j'étais pas bien grand puisque je devais avoir 7, 8, 9 ans à peu près. Par la construction du sanctuaire, c'est les Saint-Sorlinois qui l'ont construit. Et alors, comment ça se passait ? Il y avait d'abord les jeunes dont je faisais partie, dont on était une dizaine à peu près. Nous, on ramassait les pierres dans les terrains, dans les champs. On les rapprochait des chemins. Ça, c'était la première équipe. La deuxième équipe venait avec les bœufs, les tombereaux, les bœufs tirés par les bœufs, et chargeait les pierres. Et puis la troisième équipe construisait avec le maçon du village. Alors, il prenait le temps, ça se faisait soit le matin très tôt, soit en fin de journée, parce que tous ces gens-là travaillaient, hein, c'était tous des agriculteurs. Et les travaux ont commencé, je crois, le 7 février 55, et c'est terminé pour la partie grotte, et c'est terminé dans le courant septembre, puisque ça a été inauguré le 8 septembre.
Alors c'est quand même fou parce que dans tous les podcasts là qu'on a fait, il y a eu plusieurs villages comme ça où il y a eu ces projets participatifs, souvent en effet lancés par on va dire l'Église, quoi, par des personnages qui étaient les curés. Je pense à Saint-Jean-Toulage, on pense à Saint-Didier quand ils ont reconstruit l'église, à Orliena aussi. Et c'est fou de se dire, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on ne sait plus rien faire, en tout cas de nos mains, et qu'à l'époque, avec tout ce projet, avec les habitants, on était capable de refonder des monuments, en fait, hein, que ce soit des églises ou de créer carrément des trucs hallucinants, parce qu'on y est passé tout à l'heure. C'est très beau, c'est en superbe état, il y a une vue absolument magnifique. Et c'est vrai que c'est, des fois, on se dit, ça serait bien que ça revienne un peu, ça, toute cette, ce côté participatif dans les villages. Hein. C'est évidemment avec nos vies, bon, c'est les vies qu'on veut bien avoir, mais en tout cas, ça, ça devient difficile de se réunir comme ça. Et je trouve ça vraiment, c'est important, je trouve, de faire ressortir ces témoignages d'une époque où les gens vivaient ensemble. Il y avait un vrai lien social, il y avait un partage, il y avait un travail commun pour une mission commune, pour un projet commun. Et je trouve que c'est plus rare maintenant. Hein.
Oui, c'est plus rare. On est dans un pays individuel, on est devenu individualiste plus. Tout le monde a sa voiture, tout le monde va part, tout le monde va voir ailleurs comment ça se passe. Moi, je me rappelle à Saint-Sorlin, quand les dimanches ou les samedis, mais plutôt les dimanches, eh ben, on se retrouvait dans les jeux de boules. On jouait à la lyonnaise, pas à la pétanque, on se retrouvait dans les jeux de boules, mais il y avait la moitié des hommes du village qui jouaient. Bon, ils buvaient peut-être un peu des canons aussi. Maintenant, c'est plus possible, ça s'est perdu, ben, parce que les gens partent, parce que ben, c'est d'autres loisirs, c'est d'autres objectifs.
Mais tout ça peut-être un jour reviendra, parce mais que voilà, avec l'empreinte écologique, peut-être qu'un jour, on retrouvera le plaisir de partager là où on est. Et j'imagine que tu dois avoir plein de souvenirs, d'anecdotes autour de ce chantier, parce qu'on va dire que c'est un chantier sur plusieurs mois. Oui. C'est quoi tes souvenirs d'enfant, là, lorsque vous fabriquiez ce sanctuaire ?
Alors, moi j'ai deux souvenirs. Alors, ce n'est pas lié spécialement à la construction. C'est plus lié quand Monsieur le curé venait nous chercher en bas du village, enfin en bas de l'école, nous amenait à la grotte. Et le chapelet, ça dure une demi-heure, à genoux sur des escaliers qui étaient très durs. Je crois que j'en ai encore mal aux genoux. Alors de temps en temps, on avait quand même quelques. C'était un petit peu souriant, un petit peu marrant parce que j'avais des cousins qui avaient pris l'habitude d'apprivoiser des pies. Vous savez, les pies, on peut les apprivoiser. Même on peut leur apprendre à parler un petit peu. Hein. Si vous lui dites 50 fois « Bien gentil, Margot, bien gentil, Margot », la 51e fois, c'est elle qui va vous dire « Bien gentil, Margot ». Et quand elle nous voyait arriver, elle était dans une maison un petit peu plus haut, quand elle nous voyait arriver, mais elle devenait nous rejoindre. Donc on récitait le chapelet, avec la pie ben, qui jouait avec les cierges, bien qui une fois on en avait une qui était arrivée avec dans le bec du papier à cigarette. Alors elle s'était mise un petit peu sur une hauteur et puis elle avait mis le papier à cigarette entre ses pattes et avec son bec pendant tout le chapelet. Elle a sorti les feuilles de papier à cigarette et nous les a fait tomber comme ça. Elle nous avait tombé sur le nez puis de temps en temps elle venait nous taper un peu sur la tête. Enfin bon. Donc du coup, quelquefois même le curé ne savait plus où il en était dans les chapelets. Donc on lui disait, ça y est, c'est fini, même si on venait juste de commencer la dizaine. Enfin bon, voilà, c'était des petits moments qui étaient un peu marrants. Quoi.
Ah bah c'est mignon, tout ce que tu nous racontes là, c'est génial. Alors évidemment, ce sanctuaire, on est passé tout à l'heure, on a voulu représenter la grotte de Lourdes. Question que tout le monde se pose, y a-t-il eu des miracles ?
Non, il n'y a pas eu des miracles, à moins que ce soit dans le cœur des hommes, mais non, il n'y a pas eu de miracle, pas du tout, enfin on ne pense pas, non. Non, ce n'est pas reconnu
pas
comme ça,
sache.
Non. Quand je disais qu'on venait prier pour la paix, qu'on venait prier pour les soldats, c'est tous les soldats qui étaient partis en Afrique du Nord, et il y en a eu à peu près 3000 d'inscrits. D'ailleurs, si vous regardez, j'ai relevé les 3000 noms des personnes qui avaient été inscrites, des soldats qui avaient été inscrites. Sur les registres du sanctuaire.
Merci en tout cas pour tous ces témoignages. Alors évidemment, on invite les gens à aller voir ce sanctuaire. En plus, là, en ce moment, là, c'est magnifique. C'est hyper végétalisé, c'est beau. Il y a des fleurs, il y a des glycines, des lilas. Allez faire un petit tour et surtout, il y a une vue juste extraordinaire.
Une magnifique vue qui donne aussi sur le bassin de la Madone aussi. Et ouais, ce matin, on est passé juste avant pour s'imprégner du lieu. Et c'est vrai que c'est, Je pense que c'était inspirant, en fait. C'est un lieu qui est inspirant. Donc, c'est une belle construction participative. On y est, pour nous, c'est assez touchant. On aime bien. Et d'ailleurs, la logique de nos lieux enchantés, c'est aussi ça. C'est d'essayer de construire ensemble. Le nom a été construit de manière coopérative. On essaye, avec le temps, l'individualisme de notre époque, à remettre un peu au goût du jour cette possibilité de fabriquer ensemble, de vivre des choses ensemble, dans son village, en local, à quelques pas de sa propre maison ou des villages à côté. Parce que ce qui est aussi chouette, c'est que les fraîchement arrivés puissent, on pense à la Christinière, puissent mieux connaître leur village, mais également les gens qui habitent un peu plus loin, à Saint-Didier-sur-Rivry ou dans tout le pays mornantais ou même à Lyon, puissent utiliser cet outil pour apprendre un peu en accéléré l'histoire, voilà, et les anecdotes aussi. Comment on pouvait vivre les choses à l'époque. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris rapidement la grande, les moyennes et les toutes petites histoires, les toutes petites anecdotes du pays mornantais, alors que moi, je venais de très loin, mais je venais de l'est de Lyon. Et c'est vrai que ça a été une espèce d'apprentissage accéléré. Donc, ça sert aussi à ça. À Saint-Sorlin aussi, tu parlais des arts au soleil, il y a donc des choses artistiques, tu vas nous en dire quelques mots, le sport aussi, la nature, moi je fais du vélo, il y a des parcours VTT qui passent, il y a des parcours de randonnée qui sont bien balisés aussi. Et puis, on va un peu plus loin, il y a la bière des loups. Donc, il fait bon vivre aussi ici. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, sur tout ce qui... C'est moins patrimoine, c'est plus vie du quotidien, vie artistique, vie sportive, vie culturelle.
Alors, je pense que l'avantage d'être dans un village de 600, même si c'est maintenant 660 habitants, et d'être au cœur d'associations, c'est de connaître à peu près tout le monde, de pouvoir donc dire bonjour, même si c'est pas son voisin immédiat, et de créer des liens. Et à travers les associations et la bibliothèque, d'arriver à justement à ce que les nouveaux arrivants ne soient pas des étrangers, soient très vite des Saint-Sorlinois en puissance, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Et donc, on a aussi des cours de yoga. Et dans les cours de yoga, j'ai capté quand même quelques personnes de la Christinière qui viennent d'arriver. Et on reparlait du livre d'Isabelle Rodriguez. Je l'ai conseillé à une nouvelle arrivante qui est maintenant habite une maison qui autrefois avait justement, elle n'est pas la Christinière, mais une maison à côté, qui a eu également un tissage de velours à l'intérieur chez Jeannette Goua. Et du coup, je l'ai rencontrée au théâtre. Elle était venue voir la pièce et elle m'a dit merci, merci. C'était formidable ce livre. Je l'ai lu deux fois, de connaître l'histoire à travers cette enfance. Et contente. Et c'est une façon aussi d'entrer en communication avec des gens qui ne connaissaient pas du tout Saint-Sorlin, ni son histoire, ni ce qu'on peut y faire. Et enfin, Maurice sera d'accord avec moi. On essaye donc avec des moyens et une façon de mieux qu'on peut créer ces liens. On n'a pas parlé du club de l'amitié non plus, qui donc réunit, on va dire plutôt les anciens par son nom, et qui fonctionne avec les deux autres clubs d'ailleurs, de Saint-Didier et de Saint-Maurice. Donc c'est aussi là un point de rencontre et au niveau des gens le mercredi. Voilà.
Mais écoutez, on arrive à la fin. On pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, Martine, dis-nous. Je sens que Maurice est encore sous la pédale.
Simplement, je crois que l'une des plus belles choses et des plus rares à Saint-Sorlin, c'est la borne d'Imal.
Ah, ok. On n'avait pas parlé de ça.
Voilà, la borne d'Imal permettait de séparer les zones où on percevait la dîme. D'un côté, c'était les Saint-Lazare, du côté de Mornant, et puis du côté de Saint-Sorlin, c'était les comtes de Lyon qui percevaient la dîme. Et cette borne d'Imal est magnifique. Elle est restée intacte. C'est l'une des rares qui soit aussi belle. Alors, elle n'est pas située, elle n'est pas facile, elle n'est pas toujours accessible, mais bon, il faut la mentionner. Et moi, je suis prêt à emmener des gens, si quelqu'un est intéressé, pour aller la voir.
C'est un trésor caché.
C'est un trésor un peu caché, oui. Il y en a une autre, mais elle est moins belle.
Martine Maurice, un grand merci à vous. Grâce à vous, on a mis des mots, on a mis une histoire, on a mis des anecdotes sur un village que nous, du pays mornantais, souvent on ne fait que traverser, soit en voiture, soit à pied, soit en vélo, pour aller boire une bière. Nous, on est bon vivant. On est sportif aussi, comme je disais, en VTT, voilà. Et puis une occasion aussi de découvrir ces magnifiques monts du Lyonnais. Donc ça a vraiment été un vrai grand plaisir. C'était aussi léger, tu vois, c'était profond mais léger. On aime bien ça aussi, d'être à vos côtés et de découvrir tous ces trésors cachés des racanières. voilà. Alors évidemment, on pourrait encore parler longtemps de votre village, de votre cher village, mais il faut bien conclure. Et pour cela, nous aimerions vous laisser le mot ou la phrase de la fin.
Je laisse la place à l'avenir. Elle est plus jeune que moi.
C'est pas vrai?
Moi aussi.
Mais non. Ah, alors ça se compte en jours.
Alors moi, ce que j'aimerais, enfin ce que je trouve, c'est qu'actuellement, et Martine l'a évoqué il y a quelques instants, je trouve quand même que les nouveaux arrivants prennent un peu trop Saint-Sorlin comme un village dortoir. Il faut pas qu'ils entendent, ils vont pas entendre ce que je dis là, mais.
S'ils viennent pas.
Si, ils vont l'entendre. Je pense que tu fais exprès.
C'est un petit peu dommage. Je leur supplie de s'intégrer un petit peu plus, de participer un petit peu plus à la vie du village. Il y a la fête du village au mois de juillet. Et ça serait l'occasion pour eux de venir à la fois aider, puis participer et puis vivre cet instant de fête.
Oui, parce que la fête du village, c'est, pour préciser, c'est le premier samedi du mois de juillet, traditionnellement. C'est là où réellement les Saint-Sorlinois sont là. Et c'est l'occasion pour les nouveaux arrivants de découvrir les habitants plus anciens, tout simplement, et d'être en contact. C'est un moment qui est assez sympa. Moi, c'est ça, c'est que le village de Saint-Sorlin continue à vivre, et grâce à son école, grâce aux associations, et en espérant que les nouveaux arrivants apportent du sang neuf, évidemment, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. On a toujours intérêt à ne pas rester enfermé sur soi-même.
Cette causerie a été réalisée par la Compagnie des Histoires en Musique, en partenariat avec la commune de Chabanières et la communauté de communes du Pays Mornantais.